Deutsche Welle, Info, Matin.
Il est 7h en temps universel. Guten Morgen, bonjour à toutes et à tous. En studio ce matin pour 30 minutes d'information, Tamara Vakaragel et Fréjus Kenom.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce jeudi 19 janvier marque le premier jour du mandat officiel d'Adama Barrow, le président élu en Gambie. Sur le papier en tout cas, son investiture reste incertaine face à l'indéboulonnable Yaya Jamé. Le point dans cette édition.
La mutinerie dans l'armée ivoirienne est un problème structurel auquel doit être remédié au plus vite alors que le calme reste précaire dans le pays.
Premier jour de deuil national au Mali après l'attaque sur un camp militaire à Gao, signe de l'insécurité qui persiste dans le nord du pays.
Et en sport, on retrouvera Ali Farhat pour parler sans aucun doute de la CAN qui se poursuit au Gabon.
Oui, avec les Lions indomptables qui ont pris la tête du groupe A hier suite à leur victoire 2-1 face à la Guinée-Bissau. Le Cameroun qui compte 2 points d'avance sur le Gabon et le Burkina Faso qui se sont neutralisés 1-0.
Et donc on vous retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure, Ali. Et tout de suite, le flash d'information. En l'absence de solution diplomatique, plusieurs pays menacent d'intervenir militairement en Gambie.
Il y aurait 200 soldats que le Ghana se dit prêt à déployer, même effectif en provenance du Nigeria qui mobilise également des avions de combat, tandis que le Sénégal annonce que des centaines de soldats lourdement armés sont en position. À la demande du Sénégal, le Conseil de sécurité s'est réuni hier, mercredi, à huis clos. Dakar a présenté un projet de résolution pour soutenir les efforts de la CEDEAO sur le dossier gambien. Écoutez à ce sujet Olof Skog, ambassadeur suédois et président du Conseil de sécurité de l'ONU.
Nous pensons que cela pourrait se faire sous peu. Les travaux sont en cours pour négocier cette résolution. Cependant, tout dépend de ce qui se passe sur le terrain, car au moment où nous sommes, il y a quelques derniers efforts en cours pour résoudre la crise pacifiquement.
Nous reviendrons sur cette information dans quelques minutes.
Au Mali, le groupe djihadiste Al-Mourabitoun revendique l'attentat qui a fait 60 morts hier à Gao.
Al-Mourabitoun est lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sa revendication de l'attentat contre le camp militaire doit cependant encore être authentifiée. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a sévèrement dénoncé l'attaque commise par 5 kamikazes.
Le gouvernement colombien et la rébellion de l'armée nationale de libération entreront en négociation dans 3 semaines environ.
Les deux parties se donnent rendez-vous le 7 février pour mettre fin à leur conflit. L'ELN se dit prête à libérer dès le 2 février prochain l'ancien député Odin Sanchez, gardé en otage par la guérilla. En échange, les médiateurs assurent que l'exigence de la rébellion sera satisfaite, à savoir gracier 2 combattants du mouvement en détention. Il y a 2 mois, le pouvoir du président Juan Manuel Santos avait déjà signé un accord avec les FARC, une autre guérilla plus puissante que l'ELN.
Le nombre de cyberattaques visant l'OTAN serait en hausse.
C'est ce qu'indique en tout cas le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Dans une interview accordée au quotidien allemand Die Welt, Jens Stoltenberg affirme que les attaques ont augmenté de 60% par rapport à l'année 2016. La plupart de ces attaques seraient l'œuvre, pas de personnes privées, mais d'institutions étatiques.
Barack Obama lance des avertissements clairs à son successeur Donald Trump.
Oui, lors d'une dernière conférence de presse hier à la Maison-Blanche, Barack Obama a souligné que les discriminations systématiques visant des groupes sociaux ou une restriction de la liberté de presse pourraient porter atteinte aux fondements de la démocratie. Le président sortant prévient également Donald Trump contre des manœuvres improvisées et partiales dans la politique américaine au Proche-Orient. Obama suggère à la presse d'être aussi à l'avenir critique et de poser des questions pertinentes à des gens qui ont un grand pouvoir. Barack Obama sera officiellement remplacé demain par Donald Trump, inquiété par la promesse du futur 45e président des États-Unis de construire un mur infranchissable entre les États-Unis et le Mexique. De nombreux migrants pressent les pas. Les autorités des deux pays signalent une augmentation du nombre de migrants clandestins.
Et vers une reprise des pourparlers sur la crise en Ukraine.
Le sujet était au menu d'une conférence téléphonique à 3 entre le président russe Vladimir Poutine, la chancelière Angela Merkel et le président français François Hollande. D'après le Kremlin qui révèle l'information, M. Poutine annonce une rencontre à plusieurs étapes, une rencontre à laquelle prendront part Berlin, Paris et Kiev. Pas d'autres détails pour l'instant.
7h13 en temps universel. Vous êtes à l'écoute d'Info Matin sur les ondes de la Deutsche Welle. C'est un saut dans l'inconnu pour l'instant pour la Gambie. Le mandat constitutionnel du président gambien sortant est arrivé officiellement à son terme à 0h ce matin. Mais Yahya Jammeh refuse toujours de remettre le pouvoir à son successeur. Il a fait voter au Parlement une résolution qui prolonge de 3 mois son séjour au pouvoir.
Adama Barrow, président déclaré élu du pays, est depuis quelques jours à Dakar au Sénégal. Il maintient qu'il prêterait serment aujourd'hui. De nombreux analystes s'interrogent toujours sur le lieu où va se dérouler cette cérémonie d'investiture.
Autre inconnu de taille, la réaction de la CEDEAO et notamment des troupes sénégalaises face à l'obstination de Jammeh. Des troupes sénégalaises qui se sont regroupées à la frontière, nous vous en parlions à l'instant. Et Dakar a déposé un projet de résolution auprès de l'ONU pour obtenir un mandat d'intervention. Question, à quoi va-t-on insister dans les prochaines heures ou dans les prochains jours? Écoutez la réponse de du journaliste camerounais Louis Kemayou. Il est au micro d'Éric Topona.
On part dans l'inconnu, le champ des possibles devient très vaste. Je pense qu'il y a la négociation qui continue de suivre son cours, même s'il n'y a pas une énorme communication autour. Il est toujours possible que quelque chose soit obtenu pour convaincre le président actuel de s'en aller. Si cela n'est pas obtenu, l'hypothèse militaire est évoquée, mais je suis très sceptique parce qu'à l'heure actuelle, je ne vois pas la France s'engager dans une action militaire. Je ne vois pas les pays de la CEDEAO qui ont beaucoup de mal à alimenter leurs troupes en envoyer sur le terrain. Et puis de l'autre côté, Antonio Guterres, qui vient de devenir secrétaire général des Nations Unies, je ne le vois pas en train de commencer son mandat avec une guerre qui va mettre des réfugiés sur la route. Donc pour l'instant, tout est possible, mais je pense que l'hypothèse la plus probable est celle d'une asphyxie, d'un pourrissement et surtout de sanctions financières qui pourraient, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, affaiblir le régime et donc l'obliger à tomber.
Oui, mais franchement, est-ce qu'une opération militaire peut s'avérer fructueuse?
Qu'il s'agisse des sanctions financières, qu'il s'agisse de l'asphyxie et de l'isolement du régime, voire même d'une opération militaire, ce qui en paie le prix fort, ce sont surtout les populations qui n'ont rien demandé, qui n'ont fait que déposer un bulletin dans l'urne en espérant que cette voix comptera.
Comment est-ce que vous expliquez le silence assourdissant de certaines institutions comme l'Union africaine ou bien l'ONU face à la crise gambienne?
Ce sont des institutions, qu'il s'agisse de l'ONU ou de l'Union africaine, qui sont largement débordées. Aujourd'hui, l'Union africaine est majoritairement financée, c'est-à-dire plus de 50% par des fonds extérieurs à l'Union africaine. Pour qu'elle s'exprime sur une crise comme celle-là, qui pourrait déboucher sur un engagement militaire, elle a besoin d'avoir l'aval de ses sponsors de ce point de vue.
Oui, on sait que la Gambie est une banane dans la bouche du Sénégal, comme on le dit, mais est-ce que Yahya Jammeh, malgré que son pays est un petit pays, est-ce qu'il va se laisser facilement faire?
Non, il montre les muscles. En déclenchant l'état d'urgence, par exemple, il montre qu'il ne va pas attendre comme un agneau sacrificiel qu'on vienne régler son compte. Donc, de ce point de vue, on peut compter sur lui pour aller jusqu'au bout.
Le journaliste camerounais Louis Kemayou. Et précisons que d'après des informations à prendre avec, toutefois avec prudence, hier soir, le chef d'état-major gambien, le général Ousmane Badjie, aurait assuré qu'il n'ordonnerait pas à ses hommes de résister en cas d'intervention des troupes africaines.
Une intervention, un scénario que le président mauritanien a peut-être tenté encore d'éviter. Mohamed Ould Abdelaziz était à Banjul hier pour trouver une solution pacifique à cette crise, mais rien n'a filtré de la rencontre. Abdelaziz a ensuite fait escale à Dakar dans la nuit où il a rencontré le président sénégalais Macky Sall et le président élu de Gambie Adama Barrow.
Et face à ces tractations politiques encore en cours et à l'issue incertaine, certains craignent le pire et ont choisi la fuite. La Gambie se vide de ses populations. 26 000 personnes ont quitté le pays ces dernières semaines, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies.
Et la tendance est à la hausse face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. L'un des endroits les plus proches à atteindre pour les Gambiens qui cherchent refuge, c'est la Casamance, la région du sud du Sénégal. Mamadou Alpha Diallo, notre correspondant à Ziguinchor, a rencontré quelques-uns de ces réfugiés gambiens. Écoutez.
Nous sommes venus pour préserver notre sécurité. Je suis venu avec 10 enfants. Nous prions que Dieu ramène rapidement la paix dans notre pays pour que nous puissions rentrer, car nous sommes venus avec les mains vides.
C'est à cause du refus du président Yahya Jammeh, qui ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça qui nous a fait fuir. En fait, il se pourrait que cela entraîne une guerre en Gambie, ce qui est un risque pour nos vies. Nous sommes venus sans rien du tout dans nos mains.
En cas de guerre en Gambie, il ne restera rien dans le pays, tout sera détruit. Et le pays est très pauvre. Nous comptons sur l'aide internationale pour développer le pays. Et si l'on détruit le peu de choses qui existent, les bailleurs de fonds ne viendront plus nous aider.
Vous venez d'entendre les réfugiés gambiens en Casamance. Faites-nous part vous aussi de vos inquiétudes, de vos commentaires sur la situation en Gambie, par exemple sur WhatsApp.
Pour recevoir des messages au WhatsApp de la Deutsche Welle, inscrivez-vous sur notre site dw.com/français.
Il est presque 7h11 en temps universel sur les ondes de la radio internationale allemande. Au Mali, premier jour de deuil national au lendemain de l'attaque suicide sur un camp de regroupement de la coordination des mouvements de l'Azawad dans le nord du pays, à Gao. Bilan, au moins 60 morts et 115 blessés selon le gouvernement.
L'attaque a immédiatement été condamnée par le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dépêché sur place son ministre de la Défense. Mais beaucoup de Maliens ne comprennent pas la persistance de l'insécurité dans cette partie du Mali, malgré la présence des forces internationales déployées dans le pays. L'analyse d'Issa Fakaba, journaliste malien présent à Gao au moment de l'attaque suicide. Il est au micro de Eric Topona.
On a pu joindre des populations sur place qui manifestaient leur colère face à cette nouvelle attaque. Et ils ne comprennent pas que malgré la présence de troupes étrangères de l'ensemble des groupes armés et qu'une attaque d'une telle envergure puisse se produire ainsi et sans qu'on puisse prendre les dispositions pour l'éviter. Nous, les analystes, nous ne comprenons pas que le démarrage des patrouilles mixtes avait été reporté parce que la situation sécuritaire était très très tendue et que des informations faisaient état du risque élevé de nouvelles attaque. Donc, depuis 48 heures, l'alerte d'une nouvelle attaque était déjà donnée. Vous avez l'impression que les éléments du MOC ont été surpris par cette attaque. C'est aujourd'hui toute l'interrogation aujourd'hui de l'opinion publique malienne qu'on ne comprend pas pourquoi une alerte donnée il y a 48 heures et que cette attaque puisse autant surprendre et faire autant de victimes. Donc, les gens s'interrogent ici et le sentiment de colère, de frustration contre la présence de forces étrangères est de plus en plus visible, rien qu'à écouter les radios et à voir les réseaux sociaux.
Issa Fakaba, journaliste malien. Le Mali, où certains responsables pourraient faire face à des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela pour mettre fin au retard continuel qui menace la viabilité de l'accord de paix et donc la persistance de l'insécurité dans le nord du pays.
Et en Côte d'Ivoire, où ça chauffe également, les autorités appellent au calme. Pourquoi la mutinerie de gendarmes et soldats ces derniers jours? Bien sûr, les mutins étaient en colère de ne pas bénéficier des primes accordées aux ex-combattants intégrés dans les forces régulières, mais l'architecture de l'armée elle-même contient déjà les germes de sa propre destruction. C'est du moins l'avis du politologue sénégalais Babacar Justin Diaye. Écoutez-le au micro de Fiacre Ndaïra Guigé.
La solution a été une maladresse, parce que lorsque vous ouvrez la boîte de Pandore, vous n'avez plus le contrôle des mécontentements et des révoltes. Vous savez, distribuer de l'argent de cette façon, 5 millions pour un soldat, alors il va sans dire que le gendarme qui est à côté, il demandera autant. Il s'y ajoute aussi que l'armée ivoirienne est en pleine restructuration. On avait une armée traditionnelle issue de l'armée française au moment de l'indépendance, donc une institution militaire classique. Puis la rébellion est venue se greffer parce qu'il a fallu réinsérer aussi les anciens rebelles. Certains n'ont pas fait l'école de guerre, n'ont pas fait l'école militaire, ils viennent directement de la rue. Donc il y a un brassage qui crée non seulement un malaise, mais qui rend l'armée ivoirienne, qui lui donne une physionomie un peu hybride.
Mais les contestations actuellement s'observent beaucoup plus dans le camp de la gendarmerie, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des anciens ex-combattants à la sorte de Guillaume Soro.
Oui, la gendarmerie a été toujours pour Gbagbo, en tout cas elle a été toujours loyaliste avec Robert Gay, avec Gbagbo, avec tous les présidents qui se sont succédés, parce que c'est un corps qui a ses traditions. Mais il faut dire aussi que dans le cadre de la restructuration, il y a des éléments, des forces nouvelles qui ont été aussi injectés dans la gendarmerie. Mais dans tous les cas de figure, il y a aussi un problème au niveau du commandement. Hein, parce que le commandement, c'est l'affaire politique. C'est le président qui nomme les généraux en vertu de ses prérogatives constitutionnelles. Et je crois que là, il y a aussi de la contestation. La preuve, c'est que tout le haut commandement a été balayé par Ouattara et remplacé.
Quel avenir voyez-vous, justement, au point de vue politico-sécuritaire en Côte d'Ivoire?
Je crois qu'il y a un seuil au-delà duquel la mutinerie ne pourra pas aller parce que là, un allié comme la France prendra ses responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que Ouattara est malade, il va partir, il s'organise sur le plan institutionnel avec son référendum. Mais il n'est pas question de le bousculer parce que si on le bouscule, on risque d'être dans une situation chaotique, ce qui n'est ni dans l'intérêt de la classe politique ivoirienne, encore moins dans l'intérêt de la France, et par-delà la France, j'allais dire même de toute la coalition mondiale antiterroriste.
Le politologue sénégalais Babacar Justin Diaye. Une situation chaotique que l'opposant Pascal Affine-Guessant veut lui prévenir en proposant un gouvernement d'union nationale, gouvernement qui devra conclure une trêve, je cite, avec toutes les organisations politiques, militaires, syndicales et sociales. Rappelons qu'Affine-Guessant préside le Front populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Il est 8h16 en temps à Bonn dans les studios de la Deutsche Welle. En plus bref, le Maroc avance à grands pas vers la réintégration de l'Union africaine. Les députés ont adopté hier un projet de loi sur la ratification de l'acte constitutif de l'UA, et cela à l'unanimité. Une cause d'ailleurs déclarée d'intérêt national par le roi Mohamed VI.
Le temps presse effectivement, puisque les chefs d'État africains doivent voter sur le sujet lors du prochain sommet de l'organisation qui va s'ouvrir le 30 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours maintenant.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Et on retrouve Ali Farhat pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la 31e édition, avec le Cameroun qui prend la tête du groupe A.
Oui, à Libreville, les Lions indomptables ont souffert face à la Guinée-Bissau, mais ont fini par s'en sortir. Ce sont les Djourtou qui ont ouvert le score à la 13e minute grâce à un superbe enchaînement signé Piketty. Parti du milieu de terrain, l'attaquant bissau-guinéen a enchaîné coup du sombrero, course, crochet et frappe dans la lucarne de Fabrice Ondoa.
La Guinée-Bissau qui aurait pu faire le break, Ali.
Mais Frédéric Mendy a vu son lob dégagé sur la ligne par Michael Ngadeu. Par la suite, les Lions indomptables ont décidé de prendre les choses en main. Sébastien Siani a égalisé à l'heure de jeu avant que Michael Ngadeu ne donne l'avantage aussi à 10 minutes du terme. Un avantage définitif. Le Cameroun s'impose 2-1 et compte désormais 4 points, soit 2 de plus que le Gabon et le Burkina Faso. On écoute la réaction du milieu camerounais Georges Mandjek à l'issue de la rencontre.
Oui, on est sur la bonne voie, mais le seul regret qu'on a, c'est la première mi-temps. Donc on n'était pas dedans, on a joué contre une équipe en première mi-temps qui avait plus envie que nous, qui avait plus d'impact, qui avait envie de faire des efforts ensemble. Donc voilà, on s'est dit les choses à la mi-temps et en deuxième mi-temps, on a pu renverser la situation. Bah, c'est un match qui sera décisif contre le pays organisateur. C'est une équipe qu'on connaît très bien. Donc nous, on a juste à cœur d'aborder ce match dans toute la concentration possible, de commencer ce match comme on a commencé la deuxième période, pas la première. Et on va tout faire pour finir premier de notre groupe.
Oui, voilà, le prochain match dont parle Georges Mandjek, c'est bien Cameroun-Gabon, Ali, mm-hmm. n'est-ce pas ?
Mm-hmm, tout à
oui.
fait.
Et donc le Cameroun n'a besoin que d'un match nul hein, pour aller en quart de finale, tandis que le Gabon a encore laissé filer des points.
Oui, quelques jours après avoir fait un partout contre la Guinée-Bissau, les Panthères voulaient vraiment corriger le tir face au Burkina Faso. Sauf que les choses ont mal commencé avec ce but de Préjus Nakoulma à la 23e minute pour les étalons, au terme d'une superbe contre-attaque.
Et comme à son habitude, le Gabon s'en est remis à son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang.
Oui, le numéro 9 des Panthères qui avait touché la barre quelques minutes avant le but hein, de Préjus Nakoulma. Suite à une faute du gardien burkinabé Kwaku Hervé Kofi, l'attaquant du Borussia Dortmund s'est fait justice lui-même sur pénalty à la 37e minute. Par la suite, le jeu s'est équilibré et en fin de match, les Panthères ont eu quelques occasions de prendre l'avantage. Mais ni Denis Bouanga sur une remise d'Aubameyang, ni Serge Angoué sur un centre de Denis Bouanga ne sont parvenus à faire la décision. Score final, un but partout. Deuxième match nul pour le Gabon qui devra absolument élever son niveau de jeu face au Cameroun pour espérer atteindre les quarts de finale. Quant au Burkina Faso, il peut voir la Guinée-Bissau venir. Des rencontres qui auront lieu dimanche prochain.
Et sans aucun doute, il y aura du monde devant les téléviseurs. Merci Ali. Et on vous retrouve ce soir, 17h temps universel, pour un nouveau point sur l'actualité sportive.
Invité de la rédaction.
Et dans cette rubrique, on s'intéresse aujourd'hui aux États-Unis, où demain, le président élu Donald Trump va prendre officiellement ses fonctions. L'événement est suivi de près en Afrique également, où beaucoup se demandent quelle sera la nature des relations entre les États-Unis et l'Afrique sous l'administration Trump. Question dont les invités de l'Arbre à Palabre débattent cette semaine. Cette rubrique est un extrait de l'émission et les invités sont Fréjus.
Eli Ngomabinda, professeur de philosophie politique à l'université de Kinshasa, Abdoulaye Sounaï, expert au Centre de l'Orient moderne basé à Berlin, et Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie, lui aussi à l'Université de Columbia aux États-Unis, que nous écoutons en premier sur la réaction de certains dirigeants africains qui ont salué l'élection de Donald Trump.
Oui, écoutez, il faut d'abord simplement faire la part aussi diplomatique des choses, c'est-à-dire que se précipiter pour féliciter un nouveau président qui arrive aux États-Unis, évidemment, ce n'est pas une indication forcément qu'il y a quelque chose derrière. Je veux dire, cet acte réflexe sera probablement rempli par les différents présidents africains. Il est probable qu'après l'inauguration, après la prise de fonction de Donald Trump, les félicitations d'usage auront lieu. Donc je ne crois pas qu'il faille voir dans les félicitations elles-mêmes plus que la signification diplomatique de la chose.
Professeur Eli Ngomabinda, on dit ou on a entendu certains spécialistes indiquer que ce sont généralement des dirigeants autocrates qui se sont empressés pour saluer Donald Trump, sachant que ou espérant qu'il allégera un peu la pression connue jusqu'ici des États-Unis sur leur régime.
Beaucoup se sont exprimés depuis le Burundi jusqu'au Kenya en passant par le Gabon, etc., Kinshasa, mais chacun a ses intérêts, chacun y voit un espoir, d'établir des bonnes relations avec celui qui vient. Vous savez, comme vous l'avez suggéré, il y a des gens qui n'étaient pas très confortables avec le régime des démocrates d'Obama. Alors bon, vous voyez, ils espèrent avoir de meilleures relations et ils se précipitent à le faire. Il y en a qui ont dit clairement qu'ils n'approuvaient pas la manière d'agir de tel ou tel démocrate, Hillary ou Obama, etc. Donc c'est une question d'intérêt.
Alors Monsieur Abdoulaye Sounaï, on a donc indiqué au début que les Africains sont curieux de savoir quel genre de relation Donald Trump aurait avec leurs différents pays. Est-ce que vous croyez qu'il y a des craintes particulières à avoir vis-à-vis donc du slogan qu'on a déjà entendu de Donald Trump, America First?
Bon, certains leaders africains ont raison de s'interroger sur le mode de gouvernance ou le type de politique africaine que Donald Trump va avoir. Bon, il est aussi vrai que beaucoup n'ont pas été satisfaits de la politique africaine d'Obama. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont incertains quand on regarde un peu les discours que Donald Trump a eu à faire et surtout sa méconnaissance, je dirais, de l'Afrique. Certainement aussi le fait que d'après ses discours, d'après les positions qu'il a adoptées jusque-là, l'Afrique ne semble pas être une priorité de sa politique extérieure. Donc tous ces éléments me permettent de dire qu'il y a peut-être des soucis à se faire quant à l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Mais encore une fois, je pense qu'il est trop tôt de se prononcer sur cette question-là. Moi, je conseillerais plutôt qu'on attende de voir ce qu'il va faire concrètement.
La lutte antiterroriste est un domaine où les États-Unis ont de la technologie, mais aussi il voudrait bien étendre les frontières américaines le plus loin possible pour, disons, stopper les terroristes avant qu'ils ne viennent frapper sur le territoire américain. Est-ce que Souleymane Bachir Diagne, c'est un point sur lequel vous vous attendez à ce que peut-être Donald Trump ne veuille pas forcément revoir un peu ce qui existe déjà, les accords de défense, mais aussi il y a les exercices militaires, il y a l'exercice Flintlock qui se déroule régulièrement au Tchad. Est-ce que vous croyez que Donald Trump va oser toucher à ces points-là?
Vous avez parfaitement raison de souligner ces aspects. C'est la raison pour laquelle il faut faire la part des choses. Il faut faire la part entre les déclarations d'un candidat Trump et ce qui va être la pratique du président Trump. La réalité va s'imposer à lui. Et vous avez raison de souligner qu'il y a déjà la réalité des questions de sécurité sur lesquelles il ne pourra certainement pas revenir de manière unilatérale. Mais même la réalité économique de l'Afrique, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, il ne faut pas simplement poser les questions en se disant est-ce qu'il va s'intéresser à nous, est-ce qu'il va s'intéresser à l'Afrique, que va-t-il faire de l'Afrique, etc. La réalité africaine est une réalité qui d'elle-même s'impose aujourd'hui au monde. Nous ne sommes plus dans l'époque pas si lointaine où on estimait que l'Afrique ne comptait pas pour grand-chose. Ce n'est plus vrai.
Vous venez d'entendre un extrait du débat Arba Palabre que vous pourrez entendre dans son intégralité demain vendredi à partir de 17h30 TU ou encore samedi à 7h temps universel, donc demain qui est le jour J de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
À vous la parole.
Et vous avez été nombreux à réagir déjà sur WhatsApp ou Facebook à la situation en Gambie. La Gambie où le président sortant Yahya Jammeh n'est pas encore parti. Mireille Dawn a recueilli vos commentaires.
L'état d'urgence proclamé par le président sortant traduit son refus de quitter le pouvoir après plus de 22 ans, estime Alexis d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la CEDEAO pour qu'elle trouve une solution durable sans qu'il y ait d'affrontement. À Banjul, Mamadou nous rapporte que les gens sont dans l'attente de ce qui va se passer.
Les activités sont ralenties. Il y a plusieurs boutiques qui ont fermé. Mais il y a eu manque de pain.
Il y a eu déjà pénurie.
Oui, puis les boulangers n'ont pas travaillé.
Et que pensent les gens autour de vous de la situation?
Non. Il y a plein de rumeurs, j'ai des rumeurs seulement, mais la plupart estiment seulement qu'il y aura un dénouement aéré. Nous, on est là.
Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé de fuir.
Oui. Il y a beaucoup qui sont partis. Il y a d'autres qui ont fait partie de leur famille. Là. Les petits-enfants sont tous partis. Puisqu'il y a la psychose, tout le monde a fui tout d'un coup.
Mais pour l'instant, donc, on ne voit pas particulièrement de soldats ou d'armée ou de gendarmerie dans les rues.
Il y a des patrouilles sur la route principale.
Qui ne sont pas là d'habitude.
Oui, il y a des patrouilles. Mais il ne dit rien à personne. Ils sont là, ils disent rien.
Sonny de Moineditou en RDC pense qu'il est important que la CEDEAO s'implique davantage pour une résolution pacifique et non par la force. Comme Jammeh bénéficie du soutien de l'armée, le dialogue reste la voie de sortie de crise. Sinon, la Gambie va sombrer dans la violence, craint-il. Du Sénégal, Souleymane de Diourbel estime que Yahya Jammeh est un dictateur. Il ne partira pas tant que les forces armées de la CEDEAO n'interviendront pas. Mais il y aura des conséquences, c'est inévitable, affirme Souleymane. Éric de Bujumbura trouve déplorable que ce président s'éternise au pouvoir alors qu'il avait reconnu son échec lors de la publication des résultats officiels de la présidentielle. Et selon lui, la CEDEAO doit maintenir des casques bleus pour protéger les civils afin qu'ils ne soient pas victimes des affrontements qui pourraient arriver. Selon Yves de Bukavu en RDC, ce président est malade. Il comprend que son histoire tend vers la fin, mais sans tête, avec des gens comme lui, l'Afrique n'ira pas loin, affirme Yves, déplorant que les dirigeants africains comprennent mal la démocratie.
Nous arrivons au bout de cette édition. Avant de vous quitter, un rappel rapide de l'essentiel de l'actualité du jour avec vous, Fréjus Kenan.
Oui, encore aucune action militaire de la CEDEAO en Gambie à l'heure où nous mettons fin à ce journal. Adama Barrow espère toujours prêter serment. Yahya Jammeh est toujours au pouvoir au lendemain de la fin de son mandat. Et le Conseil de sécurité devrait de nouveau se réunir aujourd'hui sur la Gambie. Tunisie, expiration aujourd'hui de la mesure d'état d'urgence, mesure prolongée de 3 mois en octobre par le président Essebsi. En Haïti, plus d'un million et demi de personnes sont menacées par la faim, selon un rapport de l'ONU. Et puis à l'affiche de la CAN ce jeudi, Algérie-Tunisie à 16h temps universel, Sénégal-Zimbabwe à 19h temps universel. Ali Farhat est encore à l'écoute et il vous reviendra ce soir.
Et nous reviendrons également. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Et à ce soir donc 17h temps universel. Une belle journée à toutes et à tous.
Tchuss.